Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous commémorons cette année le cinquantenaire de la disparition de Pierre Teilhard de Chardin le 10 avril 1955, le jour de Pâques. Prophète bien en avance sur son temps pour certains, révolutionnaire panthéiste pour d'autres, quoi qu'il en soit, le jésuite appelé communément Teilhard se situa à la frontière de la religion et de la science. Chercheur, il parcourut, comme nous le verrons, le monde, mais n'obtint jamais de la part des autorités ecclésiastiques le droit la permission de publier ses ouvrages, des ouvrages qui, le plus souvent, circulaient dans les milieux autorisés sous le manteau. On parla même d'une affaire Teilhard, symbole de l'opposition entre science et foi, lui qui toute sa vie, et en tant que scientifique, en tant que paléontologue, chercha à les réconcilier. Comme l'écrivit un de ses contemporains, Édouard Bonnet, dans la revue des questions scientifiques, Teilhard, sans prosélytisme intempestif, ni zèle indiscret, allumait dans le monde d'aujourd'hui l'espoir d'une conciliation entre la pensée chrétienne, les exigences de la recherche et l'autonomie de la science. Alors, que fut Teilhard de Chardin? Surtout, quelle fut sa pensée et aussi sa postérité? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Jacques Arnoux. Jacques Arnoux, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes vous-même religieux, je vais vous appeler mon père, vous êtes dominicain, mais aussi, tout comme Teilhard de Chardin, vous êtes un scientifique, vous êtes ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences et docteur en théologie. Alors j'ai envie de dire, Jacques Arnoux, quand on est scientifique et religieux, aujourd'hui, Teilhard est incontournable?
Apparemment, c'est la pensée de beaucoup de gens qui m'ont dit toujours « Mais alors, vous connaissez Teilhard ?» Je dis non, je ne l'ai pas rencontré, je suis trop jeune pour cela, puisqu'on fête les 50 ans de son décès et je n'ai pas encore 50 ans. Oui, mais enfin, vous avez travaillé ses œuvres, etc. En fait, pendant très longtemps, non. Je le connaissais de nom, de réputation, quelques images, parce que c'est un homme qui avait une très belle tête et on a des archives photographiques de lui. Et puis, finalement, je m'y suis mis. Surtout qu'un jour, on m'a dit, ben, allez, écrivez-nous un article. Je dis, mais je ne connais rien. Alors, mais je me suis mis quand même. Et là, il est devenu un peu incontournable. N'exagérons rien. Je ne suis pas un homme à adorer les exemples qu'il faut suivre absolument. Mais en tout cas, j'ai été très heureux, à l'occasion de ce cinquantenaire, de prendre le temps de le rencontrer, lui, comme homme, avant même sa pensée. Parce que je me suis rendu compte qu'à défaut d'être incontournable, en tout cas, il avait traversé des zones plus ou moins terres inconnues. Vous savez, les terra incognita de nos anciens... qui sont un peu les miennes aujourd'hui. Il avait fait des rencontres que je fais aujourd'hui. Il avait eu des choix à faire qui ne sont pas loin des miens. Au point d'écrire même à la fin de cet exercice qui était celle d'une biographie. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas une espèce de grand frère qui était à 50 ans ou 60 ans de distance devant moi? Et ça a été un moment assez troublant pour moi. Donc, je ne dis pas qu'il est incontournable. En tout cas, j'ai été très heureux et je suis très heureux de l'avoir rencontré sur mon chemin.
Alors, mon père, vous avez reçu le prix de la Bruyère de l'Académie française en 2004. Vous venez, comme vous le dites, de publier aux éditions Perrin une biographie. Je dirais qu'il ne s'agit pas vraiment d'une biographie. En tous les cas, on parlera d'un portrait, un portrait psychologique, d'un essai, puisque sa pensée est rattachée systématiquement à ce parcours exceptionnel à travers le monde. C'est peut-être le premier aspect, l'aspect le plus frappant, c'est que Teilhard de Chardin était un grand voyageur. Mais avant d'en venir au voyageur, je crois qu'il semble important pour nos auditeurs de rappeler tout simplement les origines de Pierre Teilhard de Chardin.
Mais d'abord, c'est un Auvergnat. Un Auvergnat né tout près de Clermont-Ferrand, dans les volcans d'Auvergne, et qui, de par sa famille...
Il est né en quelle année,
pardon? En 1881, donc une famille assez nombreuse de l'aristocratie auvergnate. Et de cette famille, il va hériter de beaucoup de choses. La première étant sans doute sa foi chrétienne. Ses parents, sa mère en particulier, avaient une foi profondément enracinée, assez traditionnelle, classique, sans aucun doute. C'est pas, et on le voit surtout au début de sa vie. Il a, et c'est je dirais c'est tant mieux, parce que c'est vraiment le terroir profond, et avec un rapport à la vie, un rapport à la mort, qui pour nous aujourd'hui peut-être peut paraître, j'allais dire, un peu ringard, enfin même parfois un peu surprenant, un peu choquant, mais oui, il est l'héritier d'une longue lignée de chrétiens, il faut encore enraciner dans cette Auvergne natale. De ses parents aussi, et de son père en particulier, il reçoit une grande passion pour la nature, l'histoire naturelle, comme on disait peut-être encore à l'époque, les pierres. Pierre Teilhard de Chardin, c'est un amoureux des pierres. Il va collectionner, dès sa plus tendre enfance, il va collectionner les pierres, à la fois pour les raisons de collectionnite, on pourrait dire, et il aura toujours cette tendance comme scientifique, mais aussi, il l'explique très bien à la fin de sa vie, il avait, dès sa jeunesse, le désir de chercher des choses solides. Où voilà, se trouve l'inaltérable,
le non périssable.
Alors il avait c'est pour ça sans doute que il a toujours eu cette fascination pour les pierres. Il aura aussi, il le reconnaît, sa période du dieu de fer. Il dit le fer, ça va être quelque chose d'impérissable. Jusqu'au jour où il se rend compte que le fer rouille. Alors ça a été terrible parce qu'il fallait chercher encore ailleurs. Et d'ailleurs, paradoxalement d'ailleurs, cet homme ensuite va passer à une pensée très évolutionniste, donc l'inaltérable se trouve non pas dans ce qui dure, enfin dans ce qui persiste, mais dans un mouvement en fait qui lui est permanent, mais ça c'est la suite de son histoire.
Sa famille est vraiment très importante, il a des frères, il a des sœurs.
Oui, il a des frères, des sœurs, et elle est... C'est très intéressant.
Il y a d'autres religieux.
Alors, il y a d'autres religieux. Il y a en particulier une sœur qui sera petite sœur des pauvres et qui partira en Chine avant lui et qui mourra en Chine d'ailleurs assez rapidement. Et cela étant dit, quand il annonce à ses parents qu'il veut rentrer dans la compagnie de Jésus, chez les jésuites, ses frères et sœurs disent « Oh non, pas lui, il n'est pas le saint de la famille, c'était un autre de ses frères qui aurait dû devenir religieux. » Donc, vous voyez, à la fois, on a l'impression d'une grande liberté, c'est-à-dire que c'est vraiment Pierre qui décide de rentrer chez les jésuites au nom d'un certain idéal, je crois, dans lequel la part religieuse était essentielle, et le désir de bien mener sa vie, de bien mener sa marque, d'aller vers le meilleur. Et cela est vrai jusqu'à la fin de sa vie, puisque à la fin de sa vie, il faut finir bien. Donc, il faut commencer bien, et il choisit les jésuites comme étant pour lui la voie la plus belle, la plus audacieuse peut-être pour sa propre existence.
On sait comment il arrive vers cette vocation ? Il n'a pas eu une illumination, mais...
Non, moi en tout cas, il n'en parle pas dans ce sens-là. Je pense que un homme aussi enraciné de par sa famille, de par sa jeunesse, dans la foi chrétienne, il était dans un collège des jésuites lui-même, je ne dirais pas que c'est naturel, parce que sinon, tous les jeunes passant chez les jésuites devraient être jésuites, et dans ce cas-là, je serais jésuite aujourd'hui, et non pas dominicain, donc il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est vrai que cette opportunité-là se présenter à lui. Il n'a pas, je ne pense pas qu'il y ait eu chez lui des révélations « Tu seras jésuite, mon petit Pierre ». Plutôt, une fois encore, des portes qui s'ouvraient et des choix qu'il a réalisés.
Vous mettez en avant la devise de son collège, le gré de Dieu, mon gré.
Oui, parce que c'était le collège de mon gré. Et donc, le gré de Dieu, mon gré. Et c'est vrai qu'il y a chez Teilhard, on a l'impression, à plusieurs reprises dans sa vie, enfin, plusieurs reprises, en tout cas, apparaît là, l'impression que c'est cela qu'il a suivi. En fait, comment joindre, et c'est vrai que c'est le propos, je crois, de tout chrétien, joindre la volonté de Dieu avec sa propre volonté, donc son propre désir. Et cela, il va le chercher d'abord dans sa foi chrétienne, j'allais dire, héritée de sa famille, héritée de son éducation, donc justement dans ce collège de Mongré. Donc on voit bien au début de son existence de jeune religieux, il est encore très marqué par ce milieu, dans sa manière de penser, d'écrire, la correspondance avec ses parents très longue. Les premiers écrits de Teilhard sont des lettres à ses parents qu'on va en avoir pendant de longues années. Et là, on voit bien, elle a une religion assez traditionnelle, j'allais dire, dans son expression. Et puis petit à petit, il va prendre sa liberté.
C'est un garçon ouvert.
Un garçon très ouvert, très curieux. Très, très curieux. En même temps aussi, je crois, très courageux. Parce que Teilhard, avec d'autres, est un grand témoin, me semble-t-il, de la première moitié du XXe siècle. Puisque les jeunes religieux lorsque on a le, il est tout jeune religieux même, lorsqu'il y a ces lois d'exclusion, les lois du petit père Combes, comme on les appelle,
nous y reviendrons,
qui va l'obliger à quitter la France avec sa communauté. Donc il va tout de suite être plongé, non pas dans la facilité, je dirais, d'un certain refuge dans la vie religieuse, mais dès le début, comme tout jeune religieux, dans une, bon, l'exil, de fait, c'est fait, son premier exil sera en Angleterre, et dès lors, bon, je dirais, une certaine difficulté d'assumer son choix religieux, et ça ne fait que commencer.
Est-ce que c'est un jeune garçon dévot ? Vous montrez, vous expliquez qu'en 1899, Léon XIII consacre l'humanité au Sacré-Cœur, et cette dévotion au Sacré-Cœur est importante pour lui.
Oui. Là, c'est une dévotion sans doute qu'il hérite de sa famille. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que cette dévotion, une fois encore, je dirais, traditionnelle au sens où elle lui vient de sa pratique, il va petit à petit l'inclure, la transformer dans sa propre pensée théologique. Alors à la fin, ça ne s'appellera plus le Sacré-Cœur, ça va s'appeler le Christ cosmique, mais il y a les mêmes, on a l'impression, c'est les mêmes racines. Et je crois que c'est, vous avez raison de souligner cet exemple-là, parce que je crois que c'est assez représentatif de Teilhard, qui n'est pas un révolutionnaire qui casse le passé, qui oublie le passé en disant maintenant, on refait tout nouveau. Non, c'est quelqu'un qui est révolutionnaire à partir de son propre passé et qui transforme le passé pour construire l'avenir, ce qui me semble être une manière assez intéressante de faire la révolution.
Alors Pierre Teilhard de Chardin va devenir prêtre. Nous allons voir cela, Jacques Arnoux, si vous voulez le bien, après une première pause.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Jacques Arnoux, dominicain, docteur en histoire des sciences et auteur d'une biographie consacrée à Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin dont nous commémorons cette année le cinquantenaire de la mort. Alors nous avons évoqué quelque peu ses origines. Teilhard de Chardin va être confronté, au fond, comme tous les catholiques français, à cette question de la séparation de l'Église et de l'État. Quelles vont être les conséquences pour ce jeune qui, au fond, entre dans la vie religieuse et tout de suite doit finalement défendre sa foi contre les autorités républicaines?
Oui, disons qu'il ne faut pas voir un côté du guerrier, du jeune guerrier, je ne sais pas, une espèce de Gavroche sur les barricades de l'Église face à la... On pourrait imaginer telle chose. Non, il se trouve que là, immédiatement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitter la France. Il rentre chez les jésuites dans le noviciat et à peine ses premiers vœux prononcés, il faut qu'il quitte le territoire français. Et alors, à cette époque, les congrégations religieuses, comme les jésuites, comme les dominicains, comme d'autres, vont s'installer juste aux frontières. Parce qu'ils peuvent circuler en France, ils ne peuvent pas avoir des maisons. Donc les maisons de formation vont se trouver en Belgique ou alors sur les îles anglaises, dans le cas des jésuites, avant d'être même en Angleterre, où ils avaient eu le temps de préparer un peu les choses, d'acquérir des maisons et installer leurs jeunes jésuites en formation. Et là, une fois encore, je veux dire, comme dans sa jeunesse, il va recevoir une formation jésuite classique, mais ça veut dire poussée, parce que là, on sait que la formation des jésuites est toujours assez longue, poussée, et en même temps avec des ruptures, puisque il va passer quelques années, 3 ans au Caire, une fois sa philosophie faite, comme enseignant dans un collège jésuite, puisque c'est une des spécialités jésuites. Et c'est un moment important, c'est son premier voyage à l'étranger, enfin à l'étranger hors de, en fait, sa découverte de l'Orient. Mais il poursuit cette formation donc en Angleterre. Il va, tout en ayant sa formation de philosophe en philosophie et en théologie, où il a, contrairement à ce que certaines mauvaises langues disent, oh bon, c'est pas un théologien, c'est pas un philosophe, il a une excellente formation. Je veux dire, faut pas dénigrer la formation qu'il reçoit. Il s'implique aussi, il s'investit beaucoup dans les sciences naturelles.
Alors,
Non sans problème.
Au moment de sa présence sur l'île de Jersey, vous montrez un homme qui s'affirme vraiment. Vous dites que ce n'est pas l'homme du paraître. Et il rencontre une personne qui a une influence sur lui, c'est le fameux Auguste Valenzin,
oui.
Qui a une double influence. Il lui donne au fond le sens du service, le don de soi, et aussi il lui apporte toute la pensée de Blondel.
Oui, fait partie des premières rencontres importantes, effectivement, ce confrère jésuite avec lequel il va garder des liens très fraternels, très forts, et Teilhard aura toujours un très grand, plus qu'un respect, enfin un besoin et de ces relations entre confrères jésuites, le père Valenzin et puis ensuite Pierre Leroy, le père Douin, enfin des gens qui vont beaucoup l'aider à être ce que nous le connaissons aujourd'hui. Et également des rencontres donc avec des philosophes. Enfin, Blondel est un des exemples. Et il, tout au long de sa vie, comme ça, il aura la chance, parce que je crois que c'est une chance, de pouvoir converser, échanger avec des penseurs qui sont parfois, non pas loin de sa propre recherche, mais plus ou moins proche de sa recherche. Mais je crois qu'effectivement, il s'affirme, comme vous dites, donc loin d'apparaître, il s'affirme dans un être, et un être ouvert, et qui est mis en question. C'est pour ça que sa part d'investissement scientifique n'est pas du tout négligeable à ce moment-là, même si ce n'est encore pas des études universitaires qu'il va suivre à Paris plus tard. Mais dès sa période anglaise, il va aller continuer à collectionner ses pierres, et s'ouvrir aussi à ce qui arrive à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le début, ce début du XXe siècle, le début... L'origine des espèces de Charles Darwin a été publiée en 1859. 50 ans, c'est pas grand chose, de fait. Nous sommes au début de l'expansion des idées évolutionnistes. Et Teilhard va les rencontrer. Et ça va être important pour lui dans sa propre pensée.
Alors, avant de venir à cette question, est-ce qu'il ne se pose pas la question, est-ce qu'il n'a pas des doutes sur la compatibilité de sa vocation religieuse et puis, d'un autre côté, son intérêt scientifique?
Voilà, précisément. D'une part, pour les raisons, les questions philosophiques, ce que je viens de dire, des questions philosophiques et théologiques posées par ces nouvelles visions du monde et ces nouvelles théories. Donc déjà ça, il y a l'aspect du débat intellectuel, mais également pour des raisons de compatibilité de vie, c'est-à-dire que est-ce que un religieux doit prendre et non pas perdre, mais prendre autant de temps pour le consacrer à la science. Et effectivement, il va avoir des doutes.
Et parce là, que c'est nouveau à l'époque.
Parce que c'est nouveau, oui, même si, il faut pas exagérer, il y a toujours eu des ecclésiastiques qui se sont souciés de science. Il y a même des époques où ils étaient porteurs, de la recherche scientifique, contrairement un peu à l'image qu'on peut avoir.
Oui, il ne faut pas opposer science
non,
et
non,
foi.
En tout cas, sur la pratique, il y avait des ecclésiastiques qui étaient d'excellents herboristes, naturalistes, et puis même dans cette période trouble, il a eu quelques prédécesseurs, entre autres je pense à un dominicain, Père Leroy, pas le Pierre Leroy dont nous parlerons après, mais Dalmas Leroy à la fin du 19e. Donc c'est pas nouveau, mais en même temps pour Pierre, pour le jeune jésuite, ça se pose cette question-là, parce que lui est un homme, je dirais sans doute, qui commence à se connaître, et ça c'est aussi tout le propre de la formation jésuite, et il sait que ce côté d'investissement, il fait pas les choses à moitié. Est-ce que il peut effectivement, est-ce que c'est compatible de s'investir autant en science alors que il est rentré dans la vie religieuse pour servir Dieu? Et là, ses permaîtres, les jésuites qui sont autour de lui, le confortent dans cet investissement scientifique. Il a, lui dit-il, sa place là-dedans. Il y a une place à occuper comme jésuite. C'est-à-dire que un jésuite, il le dit, comme il le dira plus tard, c'est quelqu'un qui est qui est à l'avant-garde d'un certain nombre de chantiers ecclésiastiques et ecclésiaux. Et lui peut certainement remplir un rôle, et comme il le remplira d'ailleurs, aux avant-gardes de l'Église. Et c'est dans ce sens-là qu'on le conforte dans ce qu'il perçoit comme étant sa vocation, au fond.
Alors, il y a une ombre dans le parcours de Teilhard de Chardin dans sa jeunesse, et ce fameux homme de Pildaun. Qu'en est-il exactement?
Je ne saurais pas vous donner la solution finale. L'histoire est connue des scientifiques, des paléontologues. On découvre, donc, juste avant la Première Guerre mondiale, un crâne qui est présenté par ceux qui le découvrent comme étant le plus ancien homme d'Angleterre. Et les Anglais sont quelque part très heureux parce qu'ils sont fort maris de voir les Français avec leur homme de Cro-Magnon et dire qu'en fait les plus anciens hommes seraient français, non pas anglais. Alors donc, ce premier anglais a beaucoup de succès et Teilhard fait partie, enfin, est associé à ces découvertes-là. Il est, c'est pas le promoteur parce qu'il est un jeune fouilleur, j'allais dire, enfin, un jeune scientifique. Enfin, et puis, malheureusement, on constatera plusieurs décennies plus tard que c'est un faux. Et donc, là, à partir de là, la question se pose, est-ce que Teilhard était au courant? C'est un faux ou pas? Alors, il y a des débats, il y a des paléontologues qui considèrent que Teilhard était un des manipulateurs, j'allais dire, de l'affaire. D'autres qui disent plutôt, écoutez, c'est un jeune chercheur, il s'est fait quand même peut-être avoir par l'aura scientifique réelle d'un des deux découvreurs qui appartenait au British Museum. Donc, il l'a dit vraiment de bonne foi. Je suis assez partisan de cette deuxième solution dans la mesure où Teilhard n'a jamais craint ensuite, avant la découverte du faux, n'a jamais craint de marquer, j'allais dire, dans son curriculum vitae de scientifique qu'il avait participé à la découverte de cet homme, d'homme de Piltdown. Donc, est-ce qu'il aurait vraiment mis en avant, en tout cas, osé parler de cette découverte s'il savait que c'était un faux? Je pense que c'était un peu délicat.
Il l'aurait déclaré. Ouais.
L'intérêt de cette affaire, parce que certains ont été un peu frappé que j'en parle. En fait, je donne simplement les derniers états des lieux des enquêtes. Il y a un livre par un chercheur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui en a très bien parlé. Ce qui est intéressant et ce qui a été rapidement mis en avant par ses biographes, c'est que cette découverte, en tout cas la participation de Teilhard à cette découverte, va donner plutôt à sa recherche scientifique une dimension anthropologique, enfin humaine, qu'elle n'avait peut-être pas jusqu'alors. Il était d'abord, je vous le disais, géologue. C'était les pierres qui l'intéressaient. Et il restera toujours un très très grand géologue, enfin quelqu'un d'investi dans la recherche géologique. Mais c'est la première fois qu'il touche à la paléontologie, et ça sans doute que ça a une influence très importante sur la suite. Donc, bienheureuse faute, comme on dit parfois, quelle que soit sa responsabilité dans ce simulacre scientifique, en tout cas, en ce qui le concerne lui, et je dirais ce qui nous concerne aussi nous aujourd'hui, en tout cas dans la pensée, cette participation aux fouilles de Piltdown a sans doute orienté de manière assez directe ensuite le grand souci de Teilhard pour le phénomène humain.
Alors, justement, voyons les prémices de sa pensée avant d'aborder la Première Guerre mondiale, qui est majeure dans la pensée teilhardienne. Il voyage en Égypte, avant d'ailleurs l'Angleterre. C'est la première émotion scientifique, vous dites, la première jouissance d'exotisme et la première tentation panthéiste. Et vous ajoutez, son éducation, en fait, l'empêche de succomber à l'attrait d'un panthéisme imprégné de mystique orientale.
Oui, ça, c'est une période intéressante parce que après, j'allais dire, et aujourd'hui encore, une des critiques qui est faite à la pensée Teilhard, et c'est d'être justement une panthéiste. Pensée panthéiste. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'à lire ces textes sans autre précaution, ils ont une teinte panthéiste tout à fait nette. Et on pourrait les lire comme étant le fruit d'un panthéiste. Mais quand on parcourt sa correspondance au moment de son séjour en Égypte, et où justement son expérience se dévoile, parce qu'il dans ses lettres, il est très, très lucide, enfin il parle volontiers de lui, on se rend compte qu'il a parfaitement vécu cette tentation panthéiste, il l'a parfaitement, en tout cas il l'a très bien repéré, analysé, et dit non, ça c'est pas pour moi. Et je crois que c'est peut-être que je me trompe, hein, évidemment, je ne prétends pas être à savoir tout sur Teilhard, enfin, pour des tas de raisons, mais j'ai l'impression que cette expérience est suffisamment forte pour qu'elle demeure un peu comme une mise en garde permanente pour le reste de son existence.
Mais est-ce qu'il ne se marque pas malgré tout contre une tendance en France et notamment à Rome, puisque Rome, sur le trône de pierre, siège Pilis, et Pilis condamne une évolution qui est moderniste.
Absolument. Non, mais c'est là-dessus qu'il sera ensuite, évidemment, critiqué, et non pas condamné, mais en tout cas écarté d'un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il est conscient de cela. En même temps, une fois encore, c'est un jeune jésuite en formation qui vit 3 ans, je n'oserais pas dire de grandes vacances, mais après, vous savez, une grande maison jésuite pendant plusieurs années sur Jersey, c'est peut-être sympathique, mais les lumières d'Orient et d'Égypte, ça doit être pas mal comme moment d'ouverture. Donc, est-ce qu'il est tout à fait conscient de toutes les conséquences de ce type d'expérience panthéiste? Peut-être pas, mais je crois quand même la manière dont il en parle, comme vous le disiez, avec la culture qui est la sienne, sa culture familiale, et puis aussi sa culture de jeune jésuite, enfin, il a des permettres autour de lui, il a quand même ses références, le met en garde contre justement cette tentation panthéiste de voir, bon, encore Dieu partout, et alors que justement toute la suite de son évolution théologique et religieuse va être très centrée sur le Christ. Et je pense que si elle est tellement centrée que l'on ne peut difficilement l'accuser de panthéisme avec cette fixation, en tout cas, l'axe, c'est le Christ, c'est pas la nature. Il faudrait faire des comparaisons avec François d'Assise.
Je reçois Jacques Arnoux, auteur d'une biographie de Teilhard de Chardin, dont nous fêtons cette année le cinquantenaire. Nous commémorerons, le cinquantenaire de la disparition le jour de Pâques en avril 1955. Mon père, nous nous retrouvons dans un instant. Je reçois Jacques Arnoux, auteur du livre Teilhard de Chardin, paru chez Perrin. Jacques Arnoux, vous êtes docteur en histoire des sciences, vous êtes également docteur en théologie. Vous faites partie de l'ordre des Dominicains et vous venez donc de publier cette biographie consacrée à Teilhard de Chardin. Alors nous avons tenté de cerner cette opposition, mais il y a un débat qui se forme sur, d'un côté, les promoteurs d'une science qui devrait s'imposer à l'Église, et de l'autre, les défenseurs de l'orthodoxie, défenseurs d'une vérité qui juge toute science humaine. Donc, Teilhard de Chardin, lui, visiblement, prend un tournant en dehors, j'allais dire, du mouvement qui est un mouvement réactionnaire romain. Et vous pensez, vous le mettez non pas du côté du panthéisme, mais d'un autre côté, qui est au fond, vous le comparez en quelque sorte à saint François d'Assise.
Oui, bon, la comparaison est évidemment limitée parce que l'époque et les deux époques sont largement différentes, les figures aussi. Mais ce qui me semble, si je rapproche volontiers ces deux grands hommes de l'Église catholique, parce que je crois vraiment que ce sont deux figures incontournables, vous le disiez tout à l'heure, c'est que tous les deux ne peuvent pas s'expliquer, s'aborder au niveau de leur foi en ignorant leur profond attachement au Christ. Et on peut lire Teilhard, on peut lire François d'Assise en oubliant cela. Chacun est libre de le faire. Mais pour essayer d'aller un petit peu dans le, dans la profondeur de la pensée et de l'engagement de ces deux hommes, il faut nécessairement, je crois, intégrer cette une fois encore, cet attachement, cet amour du Christ, qui est évident chez François d'Assise. Ça va aller jusqu'à ce phénomène de stigmate. Il ne s'agit pas de rentrer dans ce que ça peut dans le phénomène lui-même, mais qui montre la manière d'identification quasiment de cet homme pour lequel l'amour du Christ allait au-dessus de tout, et Teilhard aussi, qui malgré tout ce qu'il va pouvoir rencontrer comme difficultés personnelles, humaines, spirituelles, tout ce que vous voulez, va rester attaché avant tout au Christ. Et pour lui, ça signifie aussi un attachement à son engagement de jésuite, etc. Mais on ne comprend pas, je crois, sa profonde fidélité à l'Église, à un tas de choses, si on ignore, c'est d'abord cet attachement profond et spirituel au Christ.
On est quand même étonné par certains de ses propos. Je cite notamment dans son journal le jour où il est ordonné prêtre, en 1911, si mes souvenirs sont bons. Il explique « Le prêtre, ce n'est pas celui qui se drape dans les rites, ni se confine dans l'Église et l'administration des sacrements, ni s'absorbe dans les œuvres. C'est le modèle et le premier des hommes, celui qui est le premier à s'enthousiasmer et à souffrir, le premier à attaquer le réel pour le faire plier et l'améliorer. »
Ça, c'est extraordinaire d'écrire ça en 1911.
Mais alors, ça vient en pleine contradiction avec la réaffirmation des sacrements par Saint Pie X.
Dans une première lecture, ça peut paraître en contradiction, alors qu'en fait, dans une seconde lecture et sans être révolutionnaire, on se dit, mais au contraire, il y a une vision extrêmement intéressante. Enfin, là, je parle comme prêtre. Il y a cette... Vous savez, il y a quelques années, un livre s'appelait « Les fonctionnaires de Dieu ». Faire du prêtre un fonctionnaire et qui distribue des sacrements... aujourd'hui, la grande distribution, c'est autre chose, c'est un autre métier. Ça n'a rien à voir avec, justement, ce que dit Teilhard, ce que je vous disais aussi précédemment, ce sentiment de devoir aller aux avant-gardes, d'être le premier, pas par un orgueil, il faut bien comprendre. Chez Teilhard, être le premier, c'est pas ou finir bien, comme on en parlera peut-être, mais comme je vous fais déjà allusion auparavant, c'est pas un orgueil personnel, c'est cet engagement, je crois, vraiment profond chez lui, d'être au service du Christ, et pour cela, ne pas avoir peur d'aller au-devant, d'aller en avant. Et d'en se retrouver peut-être effectivement par moment en avant-garde, même peut-être coupé des lignes. Il aime beaucoup utiliser les images militaires, mais je crois que chez lui c'est important. Et le prêtre en particulier, pour lui, est chargé de cela. Mais pas chargé en espèce de solitude et du. En fait, c'est la meilleure manière de faire son salut. Non. Pour lui, le prêtre est éminemment et constamment enraciné dans son quotidien humain, dans son quotidien, du réel. Et je crois que là. On est précisément au cœur de les risques du panthéisme, c'est-à-dire que si on est enraciné dans le réel, à force d'être tellement enraciné, on en oublie le divin. Non, justement, il faut joindre ce souci permanent du réel, cet engagement courageux dans le réel, et de porter cela, comme il le dit, de porter ça, de transformer cela pour le rendre, le rapprocher de Dieu. Et je crois que moi, de ce point de vue-là, je suis vraiment assez en osmose, en accord avec cela, dans ce que moi, aujourd'hui, je peux comprendre de la mission du prêtre. Ça ne concerne peut-être que moi, mais je crois quand même qu'il a très bien senti des choses qui sont très anciennes en même temps. Teilhard invente rarement les choses, mais il sait lire la tradition avec un regard nouveau, en tout cas un regard éveillé par le monde qui est autour de lui. Pas le tout petit monde des dévots, dont il a horreur, le monde des sacristies, ça c'est le genre de truc qu'il n'aime pas, mais le monde qui est dans lequel il se trouve, ça va être le monde, tout ce monde d'Orient qu'il découvre en Égypte, ça va être ensuite la Première Guerre mondiale, ça va être la Chine, etc. C'est ce monde-là qui l'interpelle directement.
Alors, il y a une étape majeure dans son évolution intellectuelle, c'est la Première Guerre mondiale.
Sans doute qu'il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que nous le savons bien dans d'autres exemples, en particulier dans le domaine de la littérature, de la pensée, ce que Teilhard appelle le baptême dans le réel a été vécu par bon nombre de ses contemporains. Lui, il a vécu comme les autres et en même temps un peu différemment, puisque il est religieux, donc il ne sera jamais un soldat, un combattant. Il le regrettera parfois, c'est parfois peut-être un peu surprenant, mais on lit effectivement sous la plume de Teilhard, j'aimerais pouvoir prendre un fusil et monter à l'assaut. Enfin, c'est pas pour tuer, c'est parce que je fais partie d'un grand corps et j'ai pas envie de sembler rester à l'arrière en attendant que les autres avancent et que moi reste en arrière. C'est pas un homme qui peut rester en arrière. Bon, alors il l'accepte parce qu'il n'est pas question qu'il prenne un fusil et qu'il monte à l'assaut. Il sera infirmier, brancardier pendant tout le conflit. Il ne sera jamais aumônier parce que il fait partie d'un régiment à majorité musulmane. Donc même si il a de fait, il remplit les fonctions d'aumônier. J'ai reçu il y a quelques jours d'un Parisien la photocopie de deux lettres que sa mère, je crois, avait reçues, ou sa grand-mère avait reçues de la part de Pierre Teilhard de Chardin. Donc, pas aumônier, mais prêtre du régiment dans lequel, eh bien, le mari de cette vieille dame, aujourd'hui vieille dame, avait été tué. Et donc, c'est Pierre Teilhard qui annonce le décès de cet homme. Et donc, il était aussi comme prêtre, il l'a annoncé. C'est deux lettres tout à fait toutes simples, mais touchantes et tellement humaines. Donc, il l'était, mais de manière discrète. C'est comme ça qu'à l'époque, on avait, je dirais, résolu la question de la laïcité. Mmh. Et pour lui, c'est vraiment comment aller vraiment être avec ces hommes autour de lui.
La guerre le place pleinement dans le monde.
Oui,
par opposition, un moment vous évoquez les contemplatifs. Bon, il avait du respect pour les contemplatifs, oui, mais oui. Il considérait tout de même que c'était une fuite du monde. Lui, il tient à agir dans le monde.
Voilà, absolument. Même si. Tout en se préservant toujours des temps de silence, des temps de prière, tâcher de dire une messe, etc. Parce qu'une fois encore, c'est le prêtre qui est là. Il respecte, comme vous le dites, absolument d'autres parcours qui seraient ceux de évidemment des ordres cloîtrés. Mais pour lui, il s'agit de prendre au sérieux le réel et le réel. Comme pour tous ses contemporains à ce moment-là, c'est celui de la guerre, et il est sur le front. Il est de tous les fronts, hein, dans tous les sens du terme, à cette époque. Et là, c'est clair que s'il restait encore, comment dirais-je, non pas une naïveté, une innocence, mais voilà, le jeune Auvergnat dans un milieu un peu protégé, qui va dans un collège de jésuites, et puis qu'il a directement rentré dans la vie religieuse, enfin, on pourrait dire, oui, bon, il a vécu un petit peu en dehors du monde, hein. Là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Comme jeune prêtre, il était ordonné 3 ans auparavant, et comme encore étudiant en sciences, il va se coltiner une réalité extrêmement dure. Il n'y a pas besoin de la décrire plus que cela, mais d'une manière assez étonnante. Ce qui est étonnant, c'est ce qu'il va en dire. C'est là que va naître sa pensée. C'est que plutôt que de... Bon, il voit le côté négatif, il le décrit, il le vit, enfin, il le touche, il est infirmier. Il en est même dégoûté par moments, il est même surpris de lui-même, il dit, mais en fait, d'être infirmier, j'ai pas la compassion, enfin, cette espèce de... Certains disent, il y a un côté un peu de l'aristocrate qui veut pas toucher les choses pas propres, enfin bon, il le dit lui-même. Donc, tout en reconnaissant cela, eh bien, dire, mais en fait, c'est un moment extraordinaire que nous vivons. Nous sommes dans les prémices de la grande réunion de l'humanité. Jusqu'alors, les peuples vivaient séparément. Et là, c'est les premiers chocs. Alors, ils sont douloureux parce que ce sont les premiers chocs. Eh bien, de cette humanité qui est en train de se constituer une et non plus séparée en nations.
Alors, c'est ce qu'il y a d'étonnant à vous lire. C'est qu'on a généralement, on a à cette époque-là des pessimistes, on a des révolutionnaires qui se penchent soit vers le communisme, soit vers le fascisme. Et lui, Teilhard, il développe toute une théorie du progrès.
Absolument.
Alors que l'humanité tombe dans la Première Guerre mondiale et tombe ensuite dans la Seconde Guerre mondiale.
Absolument. Alors, moi, je n'ai pas toute la solution. Pourquoi il développe cela ? Il l'explique par moments dans quelques textes. Pourquoi, dit-il, pourquoi est-ce que je crois en l'avenir ? Pourquoi je crois en la vie ? Alors, il y a des raisons objectif, de par ce qu'il connaît du monde, ce qu'il connaît de l'histoire, ce qu'il connaît de la vie, même au niveau scientifique du terme. Et puis il y a au fond de lui aussi il reconnaît que s'il ne croyait pas en la vie, ce serait l'impasse immédiate, quoi. Enfin, ça, il ne pourrait pas vivre. En gros, l'aventure s'arrêterait tout de suite. Il y a une espèce de volonté chez Teilhard qui elle n'est pas toujours évidente à comprendre, hein, mais à admettre même, je veux dire, mais je dois croire. On croirait l'entendre écrire parfois « je dois croire », parce que si je ne crois pas, si on travaille sans espérer une récompense, où va-t-on ? Vu aussi les difficultés qui sont autour de nous. Et il y a parfois un croire malgré tout qui pourrait apparaître. Et c'est parce que c'est aussi des moments où il rencontre, pour la première fois sans doute, en tout cas de manière tout à fait présente, des crises de dépression très fortes.
Alors justement, je voulais vous en parler. Est-ce que ce décalage n'est pas la conséquence, est-ce que ces angoisses plutôt dont vous parlez n'est pas la conséquence de ce décalage entre d'une part cette réalité qui est terrible et au fond c'est cette foi.
Ou alors l'antidote. C'est que face à ce qu'il pressent comme pouvant être destructeur de sa personne, de sa confiance dans la vie, il passe une vitesse supérieure, si je puis dire, et il dit non, parce qu'il a des textes, il a peur, il dit voilà, l'homme est seul, on est entouré par le noir. Et là, on pourrait dire aussi, il répond à cela avec sa foi. C'est me semble-t-il, un peu comme ça que Henri de Lubac, donc un confrère de Teilhard de Chardin, va analyser un peu sa pensée dans un livre qu'il a publié au début des années 60, La pensée religieuse de Pierre Teilhard de Chardin. Et il disait, est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer à Teilhard ce que l'on disait ou ce que Albert Schweitzer disait de lui-même? Un pessimisme humain sur lequel s'ajoute un optimisme chrétien qui passe au-dessus du pessimisme. Et c'est pas impossible qu'il y ait dans une certaine volonté, mais une volonté qui est en même temps confiance. Enfin, vraiment, c'est là le travail de la foi. Alors, cela peut être surprenant. On peut ne pas être d'accord avec cette espèce de vision tellement optimiste. On dit, mais il a rien vu autour de lui. Si, il a vu tout ça. Il en parlera après, cet excès de mal qui est autour de lui. Mais il y a cette espèce de volonté de confiance, qui est peut-être une manière de définir la foi, qui passe au-delà et qui agit. Et je me dis, au fond, si on tempère un peu les excès de langage qui sont parfois les siens, et sans du tout justifier le conflit. Il ne s'agit pas de justifier le conflit. Lui, il est dedans, il ne le justifie pas. Il n'y a pas besoin de le justifier. Il le vit, ce conflit. Mais de voir, effectivement, ces soubresauts, c'est peut-être ces moments de marche arrière de l'humanité, mais vers une certaine union, une certaine communion. Je pense qu'il n'a pas complètement tort. D'ailleurs, la suite, si on fait le bilan, c'est vraiment très présomptueux, mais du XXe siècle, il y a eu ces deux conflits qui ont été des moments de rupture énormes dans l'histoire de l'humanité, mais il y a eu aussi, à la suite de ça, et en partie à cause de ça, des mouvements comme les Nations Unies qui aujourd'hui existent, et il faut aller écouter ce qui est œuvre au sein même des Nations Unies. On dira, ce sont des doux rêveurs. Pas toujours. Aujourd'hui, ce qui se passe au sein de notre Europe, ça naît de ce conflit dont on veut sortir.
C'est ce qui rend moderne Teilhard, au fond ? C'est ce qu'il place en avance sur son temps ?
Peut-être. Le terme de prophète qu'on peut utiliser, que j'utilise moi-même, j'utilise toujours un peu avec précaution, parce que, je dirais, il est prophète parce qu'il a su lire le passé avec les yeux du présent, mais des yeux vraiment lucides sur le présent, et qui à ce moment-là lui donnait de la lucidité sur l'avenir. Cette idée de progrès, il ne l'a pas inventée. Elle était déjà bien plus ancienne, déjà au XVIIe, XVIIIe, XIXe, avec déjà des critiques même du progrès. Lui, il va la faire sienne en disant « il faut que les chrétiens s'y intéressent sérieusement ». Et il s'y intéresse sérieusement. Il voit autour de lui cette confusion des nations, et il a, je pense, aussi cette pensée chrétienne et et catholique au sens universel du terme, et il dit mais il faut instaurer au sein de cette confusion non pas de nouveau la séparation, mais il faut que dans cette confusion naisse une meilleure complexité et harmonie. Mais donc c'est vrai qu'il des gens disent aujourd'hui Internet Teilhard l'avait vu. Oui, on peut dire ça comme ça, mais il a bien su analyser, je crois, l'histoire. Dans ce sens-là, c'est un très bon scientifique. Comme paléontologue, il regarde l'histoire passée et il essaie de la de rendre cette histoire, comme il dit, vraie pour lui aujourd'hui, au moment où il écrit. Et de là, je crois, effectivement, on peut commencer à être lucide sur l'avenir. Alors, quelquefois, on a raison, puis quelquefois, on se trompe.
Un jour dans l'histoire reçoit Jacques Arnoux, dominicain et auteur du livre Teilhard de Chardin paru chez Perrin. Il y a bien d'autres choses à évoquer, Jacques Arnoux, malheureusement le temps passe. Nous nous retrouvons dans un instant après une dernière pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
Christophe Dickès.
Je reçois Jacques Arnoux, auteur de la biographie Teilhard de Chardin, paru aux éditions Perrin, et nous évoquons ce personnage, ce religieux qui marchait entre la religion et la science. D'autre part, deux concepts qu'on a tendance à opposer, à tort je pense, hein, comme le montre la lecture de votre biographie. Alors, il y a de nombreux points encore à évoquer, Jacques Arnoux. Il y a un point très important dans la vie de Teilhard, c'est la Chine. Mmh. La Chine qui est à la fois une terre de recherche, c'est le fameux synanthrope qui va être trouvé, mais en même temps une terre d'exil, puisqu'au fond, il ne peut publier à Paris, il ne peut rechercher à Paris, il n'est pas élu à l'Académie pontificale des sciences. Donc,
C'est d'abord une terre d'exil. C'est-à-dire que dans les années, en 1922, il écrit une note à propos de la lecture des premiers chapitres de la Genèse et remet en cause la réalité historique d'Adam et Ève. Il n'est pas le premier à le faire, mais en tout cas, il le fait, il l'écrit, et cette note est envoyée à Rome. Et à ce moment-là, on lui dit assez rapidement, mon cher ami, il vous est interdit désormais de prendre la parole sur des sujets religieux. Et pour être sûr que vous appliquez ça, on va vous envoyer à l'autre bout du monde, et l'autre bout du monde, c'est la Chine, où il avait déjà été faire un séjour pour des uniquement scientifiques, et là, il se retrouve avec des occupations scientifiques réelles, et là, il va pouvoir vraiment s'épanouir au niveau scientifique, mais avec cette contrainte de non-publication et de non-expression en public de tout ce qui concerne les questions religieuses. En science, il va avoir, tout va être ouvert. On n'empêchera jamais de publier ses travaux scientifiques. Dans les années, après la Seconde Guerre mondiale, on va parfois être un peu réticent pour qu'il reçoive un certain nombre de titres ou de responsabilités au sein de la communauté scientifique parce qu'on craint, c'est-à-dire les autorités romaines, craignent que la reconnaissance par les sciences, par le domaine scientifique ou par la communauté scientifique déteigne un peu sur une reconnaissance de ses idées, mais il aura quand même carte blanche dans ce domaine-là. Et il va effectivement, comme vous le disiez, la Chine va devenir pour lui ce qu'il avait déjà pressenti lors de son premier séjour, quand tout semblait ouvert, même au niveau religieux. La Chine va être vraiment pour lui un laboratoire extraordinaire, parce que tout est à faire.
Mais alors, laboratoire extraordinaire, mais en même temps, il écrit beaucoup. Alors, oui. C'est la messe sur le monde, je crois, qu'il écrit en Chine.
Oui, exactement. Puis la plupart de ses écrits, beaucoup de ses écrits datent effectivement des années donc 1926-1945. C'est 20 ans où il va être le plus souvent, enfin, sa base va être la Chine. Bon, il va voyager, il va rentrer en France à l'occasion, mais c'est toujours un peu en exil. Hein. Donc, alors, il va écrire, mais pour lui. Il va essayer à plusieurs reprises d'être publié. Il va faire des tentatives et puis bon, quitte à rectifier un petit peu, mais toujours un nom catégorique. Il ne sera jamais publié de son vivant. Comme vous le disiez, ses écrits vont passer sous le manteau, des petits textes réontypés à la célèbre couverture bleue, bon, mais ça reste extrêmement réduit et c'est bon, c'est pas que ce soit dangereux, mais on le sait, on le laisse un peu faire, mais c'est pas suffisant pour qu'il y ait une possibilité de débat public, c'est ce dont il a sans doute souffert, en tout cas sa pensée, je pense, en a souffert.
Il est très lucide sur sa situation.
Oui.
Vous le montrez très lucide, notamment lors de son voyage à Rome.
Oui, étrange voyage à Rome en 1948, où il va, en pensant qu'il va pouvoir s'expliquer, puis que finalement tout va s'arranger, parce qu'il a une espèce de confiance, une confiance que certains trouvent même naïve, une confiance dans l'Église. On peut analyser longuement et je ne sais pas qui est le mieux placé pour le faire, en tout cas c'est sans doute pas moi, mais une fois encore, pourquoi cette confiance dans l'Église ? Parce que pour lui, l'avenir de l'humanité passe par l'axe du christianisme, s'enroule autour de l'axe qu'est le christianisme. Alors, et l'axe du christianisme, au cœur de l'axe du christianisme, il y a Rome. Rome avec chargé d'histoire, il raconte sa visite des églises, sa visite du berceau de la compagnie de Jésus, et il dit quand même, tout vient de là, tout part de là, tout s'enroule autour de Rome, alors pourquoi quitter l'axe ? Et il reste fidèle, toujours, mais alors qu'on continue à lui dire non, vous ne publierez pas.
Vous le montrez quand même désespéré, en 1940, il dit « Je demande souvent à Dieu d'être la cendre où poussera pour d'autres, ce grand épanouissement qui a manqué à notre génération. »
Oui.
Il y a quelque chose de manqué dans ces paroles ?
Non, mais c'est vrai qu'il était aussi lucide. Il passe toujours d'un état de lucidité qui pourrait être le début d'un abandon. Pas moi, on dit oui, ça continue, je partirai sur les routes, sans rien, enfin, une espèce de... Bon, mais c'est ça qui est extraordinaire dans ses écrits, et qui est peut-être un peu difficile, en tout cas, moi, c'est une des difficultés, c'est qu'il écrit énormément de choses. Alors, où est le vrai Teilhard ? Il n'y a pas de vrai Teilhard, il n'y a pas plus de vrai ou de faux, mais Teilhard est tout ça, dans des moments de grande détresse psychologique, des moments d'enthousiasme. Dès qu'il y a quelque chose de positif, il s'accroche et c'est reparti, c'est ça qui est extraordinaire. Dès qu'on lui dit, bon, écoutez, peut-être quand même que si vous changez telle ou telle chose, ah, ça y est, je vais pouvoir publier. Ben non, c'était, il avait peut-être pas bien entendu, ou on lui avait peut-être raconté des sornettes. Mais ça, c'est Teilhard, ce côté enthousiaste et parfois un peu, effectivement, un peu enfantin, un peu naïf, mais il y a la foi de l'enfant qui est peut-être encore toujours là.
Alors les choses ont évolué avec le temps, notamment Pie XII, dans son encyclique Divino Afflante Spiritu, accepte de reconnaître à l'histoire, la philologie et à l'archéologie le droit au fond d'éclairer la Bible. Aujourd'hui, bien évidemment, la situation de Rome est bien différente de celle du début du siècle. Est-ce qu'il y a une postérité de l'œuvre de Teilhard ? Est-ce qu'on peut dire que l'œuvre de Teilhard est toujours d'actualité ou qu'au contraire, au fond, il a fait son temps à une époque où, bon, il a eu une déclaration, il a eu une pensée bien particulière qui correspond à une époque qui semble dépassée aujourd'hui ?
De mon point de vue, mais je sais qu'il se discute très largement là-dessus, je pense qu'on n'a pas encore vraiment tiré toutes les leçons de la pensée de Teilhard, au sens où, je vous le disais rapidement tout à l'heure en passant, cette pensée très prolixe, parfois un peu chaotique, où tout se mélange, nécessite pour vraiment entrer dedans un travail critique et d'analyse critique qui n'a sans doute pas été encore mené jusqu'au bout. Et quand je dis aussi tirer des leçons, c'est de voir comment, en se coltinant, en portant vraiment très sérieusement les questions de son temps, il a, dans ses erreurs, comme dans ses coups de génie, peut-être désigné des lieux de travail, ou au contraire des impasses, que nous n'avons peut-être pas encore tous perçus. Et il y a sans doute un travail à faire pour ça, je dis tirer des leçons. Pour ça, je disais tout à l'heure, cette découverte a posteriori, de dire au fond, cet homme, c'est merveilleux, c'est toujours étonnant quand on a l'impression d'avoir un grand frère qui vous précède. Quand je dis ça, sans en rajouter beaucoup de pathos, mais au fond, il nous a précédé sur pas mal de routes intellectuelles, dans ce que vous disiez de rencontres science et foi, et cette question est loin d'être réglée. Est-ce qu'on en a tiré toutes les leçons, y compris de ses erreurs ? Je ne crois pas. En tout cas, quand je pose des questions aux experts de Teilhard, je vois bien que sur un certain nombre de points, on n'a pas encore vraiment abordé ces questions. Dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est un homme qui a voulu faire entrer la science et le monde au sein de l'Église, ou ouvrir les fenêtres de l'Église, comme Jean XXIII va inviter à le faire au début du Concile. Mais on voit bien aussi... Je m'interroge toujours sur certains choix scientifiques. Est-ce qu'il n'était pas... un peu dicté par ses convictions religieuses. Et jusqu'à quel point il ne s'est pas un peu trompé dans des choix scientifiques.
Il y a la question de l'eugénisme, notamment.
Voilà, la question de l'eugénisme, même sur d'autres choses, sur la place du déterminisme, de ce qu'il va appeler l'orthogénèse, donc une vision de l'histoire, du vivant, très dirigée par un point oméga qui est au bout. Est-ce que ce n'était quand même pas plus influencé par ses idées philosophiques et théologiques que par un certain nombre de données scientifiques. Le débat existait de son vivant et on peut en continuer de ça. Il ne s'agit pas de dire Teilhard avait tort. Quelles leçons on peut tirer? À mon avis, encore, de ce point de vue-là, il est encore actuel parce que les questions demeurent. Et vous savez, il y a des grandes questions dont, d'ailleurs, nous n'aurons pas la réponse. De son vivant, il ne les a pas trouvées. On ne les trouvera pas. Mais il s'agit, comme il le dit, d'avancer. Et surtout, de croire dans le futur. Et de ce point de vue-là, c'est un très grand croyant dans le futur.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne tient absolument pas à fonder une autre religion. Hein. Il tient à rester dans l'orthodoxie. Il lisait correctement son bréviaire. Vous racontez une anecdote extraordinaire où un chien d'un de ses hôtes mange...
Un scientifique athée, et le chien du chien de ce scientifique avait mangé le bréviaire de Teilhard, il ne le retrouvait pas. Enfin, il y a plein de Fioretti. Évidemment, un homme pareil a généré... parce qu'il y a des choses où on peut se demander, même si effectivement ce ne sont pas des Fioretti, il y a des choses qui sont trop belles, des accidents en train ou en voiture. Quand il était en Éthiopie avec Henri de Montfred, le train qui s'arrête au moment où Teilhard dit « mais je voudrais aller voir telle coupe géologique », et ça recommence durant la croisière jaune où une des autochenies tombe en panne parce que Teilhard dit oh, « si seulement on pouvait avoir une panne », et ça tombe en panne. Bon,
ça lui arrive deux ou trois fois.
Ça lui arrive deux ou trois fois, c'est un peu bizarre. Et je me suis amusé à écrire une fiction sur Teilhard et j'ai donné quelques explications qui évidemment ne sont pas du tout historiques.
Alors il dit « Me croyez-vous assez fou, un interlocuteur, pour vouloir fonder une religion nouvelle ou pour me croire un second Jésus-Christ ?»
Oui, d'autant plus qu'on lui proposait de rentrer chez les vieux catholiques. Alors Teilhard, qui est un homme de l'avant, on lui propose d'être un vieux catholique, complètement ridicule. Et une fois encore, c'est ce que je vous disais, pour lui... L'avenir du monde tourne autour d'un axe, et cet axe, c'est le christianisme. C'est le christianisme porté en plus par l'Occident. Ce qu'on peut évidemment réfléchir sur là, ce qui n'était pas un peu excessif. Mais et donc, pourquoi créer du nouveau alors que toute l'histoire est portée par cet axe qu'est l'Église catholique? Donc, pour lui, c'est pas une question de. Il n'y a pas d'autre solution.
Eh bien, mon père, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée à Teilhard de Chardin. Vous êtes dominicain, donc Jacques Arnoux, ingénieur agronome, docteur en sciences et docteur en théologie. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour une émission sur Saint-Simon. Merci et à bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.